Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation. La Divina Commedia de Dante, l'adjectif divina dû au seul bocas, a été comparé à une cathédrale, comme l'œuvre de Balzac, qui lui empruntera son titre, ou comme celle de Proust, aux deux grands chemins qui bifurquent pour finir par se rejoindre, la Commedia de Dante observe une construction remarquable et particulièrement rigoureuse. Le triptyque que forme cette cathédrale, l'enfer, le purgatoire, le paradis, représente un total d'environ 15 000 vers. Et, à l'exception du premier chant de l'enfer, que l'on peut considérer comme un prologue, chaque canzone, c'est le terme de Dante, ou chaque cantique, c'est le terme employé par les exégètes italiens. Chaque canzone, donc, rassemble 33 canti, 33 chants, ce qui forme le nombre 100 pour l'ensemble, prologue compris. S'ajoute à cela le fait que ce soit le mot stelle, étoile au pluriel, qui vient clore chacun des trois cantiques. Aux yeux du critique Indro Montanelli, Dante n'ouvre pas la période de la Renaissance, il clôt bien plutôt celle du Moyen-Âge par son attachement à une délicate métaphysique des nombres. Cette métaphysique s'inscrit aussi bien dans l'usage de la tierce rime, les 15 000 vers s'ordonnent par groupe de trois en décasyllabes, le premier rimant avec le troisième et le second ouvrant un nouveau tercet en une suite ainsi poursuivie. Donc, aussi bien dans l'usage de la tierce rime que dans l'obsession du chiffre 3, symbole de la Trinité d'un point de vue théologique. On verra se multiplier les occurrences de cette symbolique ternaire dans l'enfer, citons simplement les trois dames bénies du deuxième chant, les trois gorgones du neuvième, les trois petits cercles du onzième, les trois esprits du 25e, qui en l'espèce représentent trois voleurs florentins, au sein du plus visionnaire de tous les cantiques, ou plutôt, je devrais dire, de tous les chants. Ce rappel, ce leitmotiv ternaire, restera présent tout au long du triptyque lui-même. Avant de lire quelques fragments des chants qui nous paraissent les plus saisissants dans la traduction de Jacqueline Risset, faisons entendre, dans cette langue, si justement nommée « langue de Dante », lui qui a écrit un essai en latin, le De Vulgari Eloquentia, sur la naissance de cette même langue, qui précisément, avec lui, s'affranchit du latin. Donc, faisons entendre les tout premiers vers du chant 1.
Nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era, è cosa dura. Ista selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte.
En voici la traduction. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil, en ce point où j'abandonnais la voix vraie. Et voici, toujours dans la langue de Dante, un autre fragment.
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vid'io scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro.
Il s'agit du frontispice, des paroles, des vers qui constituent le frontispice de la porte de l'enfer au début du troisième chant, dont voici la traduction. Par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi la gente perdue. Justice a mu mon sublime artisan. Puissance divine m'a faite, et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel, et moi, je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Et voici maintenant un long extrait particulièrement célèbre qui narre le sort de Francesca da Rimini dans le cadre du cinquième chant. Quand j'eus ainsi entendu mon docteur nommer les dames de jadis et les cavaliers, pitié me prit et je devins comme égaré. Je commençai. Poète, volontiers je parlerais à ces deux-ci qui vont ensemble et qui semblent si légers dans le vent. Et lui à moi, tu les verras quand ils seront plus près de nous. Alors, prie-les par l'amour qui les mène et ils viendront. Dès que le vent vers nous les plie, je leur dis ces mots. Ô âme tourmentée, venez nous parler, si nul ne le défend. Comme colombe à l'appel du désir, viennent par l'air, les ailes droites et fixes, vers le doux nid porté par le vouloir. Ainsi, de la compagnie de Didon, ils s'éloignèrent, venant vers nous dans l'air malin, si fort fut mon cri affectueux. Ô créature gracieuse et bienveillante, qui vient nous visiter par l'air sombre, nous, dont le sang teignit la terre, si le roi de l'univers était notre ami, nous le prierions pour ton bonheur, puisque tu as pitié de notre mal pervers. De tout ce qu'il vous plaît d'entendre et de dire, nous entendrons et nous vous parlerons, tandis que le vent, comme il fait, s'adoucit. La terre où je suis né se trouve au bord de ce rivage où le Pô vient descendre pour être en paix avec ses affluents. Amour qui s'apprend vite au cœur gentil, prie celui-ci de la belle personne que j'étais, et la manière me touche encore. Amour qui force tout aimer à aimer en retour, me prie si fort de la douceur de celui-ci, que, comme tu vois, il ne me laisse pas. Amour nous a conduits à une mort unique. La Caïn attend celui qui nous tua. Tels furent les mots que nous eûmes d'eux. Quand j'entendis ces âmes blessées, je baissai le visage et le gardai si bas que le poète me dit : Que penses-tu ? Quand je lui répondis, je commençais. Hélas, que de douces pensées et quels désirs les ont menés au douloureux trépas. Puis, je me retournai vers eux et je leur dis pour commencer : Francesca, tes martyrs me font triste et pieux à pleurer. Mais dis-moi, du temps des doux soupirs, à quel signe et comment permit amour que vous connaissiez vos incertains désirs ? Et elle, il n'est pas de plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère, et ton docteur le sait. Mais si tu as telle envie de connaître la racine première de notre amour, je ferai comme qui pleure et parle à la fois. Nous lisions un jour, par agrément, de Lancelot. Comment amour le prit ? Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois, la lecture nous fit lever les yeux et décolora nos visages. Mais un seul point fut ce qui nous vainquit. Lorsque nous vîmes le rire désiré être baisé par tel amant, celui-ci, qui jamais plus ne sera loin de moi, me baisa la bouche, tout tremblant. Galeot fut le livre et celui qui le fit. Ce jour-là, nous ne l'eûmes pas plus avant. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait. Si bien que de pitié, je m'évanouis comme si je mourais, et je tombais comme tombe un corps mort.
Thank you.
Alors, on a eu un petit souci technique puisqu'on a entendu des applaudissements qu'on n'aurait pas dû entendre. Mais bon, Arkady Volodos, le pianiste, les mérite amplement. Alors, je voudrais maintenant donner un long extrait, lire un long extrait, toujours dans la traduction de Jacqueline Risset, du 25e chant qui correspond au 8e cercle, puisque je n'ai pas dit que la géographie de l'enfer est assez complexe. Il y a 9 cercles de l'enfer qui se rétrécissent toujours davantage, puisque l'ensemble a la forme d'un entonnoir, et qui se complexifie toujours davantage, puisque à partir du 12e chant, on a des girons, puis à partir du 18e chant, on a des bolges, et enfin, plus on va vers le centre de l'entonnoir, et on aura des zones, la caïna, dont il a été question dans la lecture de l'épisode de Francesca da Rimini, l'Antenora, la Tolomée et la Giudecca. Je voudrais lire, parce qu'il me paraît que c'est un des chants les plus étonnants et les plus visionnaires, un extrait du 25e chant, alors même que nous sommes déjà très profond dans l'entonnoir, puisque nous sommes au 8e cercle. Je rappelle évidemment que quand on entend le pronom « nous », il s'agit du poète accompagné de son guide Virgile. Et 3 esprits vinrent au-dessous de nous que ni moi ni mon guide n'avions aperçu jusqu'au moment où ils crièrent « Qui êtes-vous ?» Notre discours en fut interrompu et nous ne fîmes plus attention qu'à eux. Il m'était inconnu, mais il arriva, comme souvent il arrive par hasard, que l'un d'eux prononça le nom d'un autre, disant « Chanfa, où donc est-il resté ?» Alors, pour que mon guide l'écoute, je dressai mon doigt devant la bouche. Si maintenant, lecteur, tu es lent à croire ce que je vais dire, ce n'est pas étonnant, car moi-même qui le vis, j'y crois à peine. Comme je tenais les yeux fixés sur eux, voici que s'élance un serpent à 6 pieds sur le premier et s'attache tout à lui. De ses pieds du milieu, il lui serra le ventre, et de ceux de devant, lui saisit les bras, puis lui planta ses crocs dans les deux joues. Ceux de derrière, il les mit sur les cuisses et fit passer sa queue entre les deux, la redressant sur les reins par derrière. Jamais un lierre ne serra de si près un arbre que cette horrible bête n'entortilla ses membres à ceux de l'autre. Ensuite, ils se collèrent, comme s'ils avaient été de cire chaude en mêlant leurs couleurs. Ni l'un ni l'autre ne semblait plus ce qu'il était. Tout comme s'avance, poussé par la chaleur, sur le bord du papier une couleur brune qui n'est pas encore noire, où le blanc meurt. Les deux autres damnés regardaient en criant « Hélas, Agnel, comme tu changes ! Voici que tu n'es plus ni deux, ni un !» Déjà, les deux têtes n'en formaient plus qu'une, quand deux figures mêlées y apparurent en une face où toutes deux étaient perdues. Les deux bras se formèrent de 4 parties, les cuisses avec les jambes, le ventre avec le buste, devinrent des membres jamais vus. Tout aspect primitif y était aboli. L'image perverse semblait deux et aucune et s'éloignait ainsi faite à pas lents. Comme un lézard sous le grand fouet des jours caniculaires, changeant de haie, semble un éclair. S'il traverse la route, tel apparut, avançant vers les ventres des deux qui restaient là, un serpenteau de feu, livide et noir, comme un grain de poivre. Il transperça l'un d'eux en cet endroit du corps par où nous prenons la première nourriture, puis tomba étendu devant lui. Le transpercé le regarda et ne dit rien. Mais il bâillait, les pieds fichés en terre, comme assailli de fièvre ou de sommeil. Il regardait la bête, elle le regardait, l'un par sa plaie et l'autre par la bouche. Il fumait fort et les fumées se rencontraient. Que Lucain se taise désormais là où il parle du pauvre Sabellus et de Nasidius et qu'il écoute ce qui va sortir de mon arc. Covid se taise sur Arétus et sur Cadmus, car si sa poésie change la première en source, le second en serpent, moi, je ne l'envie pas. Jamais il ne transmua deux natures face à face de façon telle que les deux formes fussent en mesure d'échanger leur substance. Ils se correspondirent en suivant une loi qui fit que le serpent fendit sa queue en fourche et que le blessé joignit ses pieds ensemble. Jambes et cuisses s'unirent entre elles, si bien que leur jointure, en peu de temps, n'était plus visible par aucun signe. La queue fendue en deux prenait la forme qui se perdait ailleurs, sa peau devenait molle et l'autre durcissait. Je vis les bras rentrer dans les aisselles et les deux pieds de l'animal, qui étaient courts, s'allonger d'autant que les bras se rentraient. Puis les pieds de derrière, tordus ensemble, devinrent le membre que l'homme cache. Du sien, le malheureux tira deux pattes, tandis que la fumée les voile tous deux d'une couleur nouvelle, faisant pousser des poils sur la peau de l'un, épilant l'autre, l'un se leva, l'autre tomba à terre, sans jamais détourner leurs regards impies sous lesquels ils changeaient de museau. L'homme dressé le tira vers les tempes, et de ce qui vint en excès de matière, les oreilles sortirent de ses joues aplaties. Le surplus, qui resta par devant, forma un nez sur le visage et gonfla les lèvres autant qu'il fallait. Le gisant amène son museau vers l'avant et retire ses oreilles dans la tête, comme fait la limace avec ses cornes. Sa langue, auparavant unie, prête à parler, se fend, tandis que la fourche se referme chez l'autre et la fumée cesse. L'âme, qui était devenue bête, s'enfuit en sifflant par la vallée et l'autre derrière elle crache en parlant. Puis il lui tourna ce dos tout neuf et dit à l'autre « Je veux que Buoso court, comme j'ai fait, à quatre pattes par ce sentier. » Je vis ainsi le lest du septième cercle se muer et transmuer, et que la nouveauté soit mon excuse si ma plume s'empêtre. Mais, bien que mes yeux fussent un peu troublés et que mon courage fût égaré, ils ne purent s'enfuir si bien dissimulés que je ne reconnusse Puccio Ciancato. Il était le seul des trois compagnons venus ensemble à n'avoir pas changé. L'autre était celui, Gaville, pour qui tu pleures.
Thank you.
Je vais lire pour finir un extrait du 28e chant qui parlera particulièrement aux Périgourdins. Vous verrez pourquoi. Je vis en vérité et crois encore le voir, un corps allait sans tête, comme faisaient aussi les autres qui formaient ce triste troupeau. Il tenait sa tête coupée par les cheveux, suspendue à la main comme une lanterne. Elle nous regardait et disait « Hélas !» De soi-même à soi-même, il faisait un flambeau. Ils étaient deux en un et un en deux. Comment cela se peut ? Seul le sait qui l'ordonne. Quand il fut juste au pied du pont, il éleva en l'air le bras avec la tête, et pour rapprocher ses paroles de nous, qui furent « Vois donc, la peine épouvantable, toi qui vivant viens visiter les morts, vois si aucune est aussi grande, et pour que de moi tu portes des nouvelles, sache que je suis Bertrand de Born, celui qui donna les mauvais conseils au jeune roi. Je fis se haïr entre eux, père et fils. Architophel, par ses pointes perfides, ne fit pas plus contre David et Absalom. Pour avoir divisé deux personnes si proches, je porte, hélas, mon cerveau séparé de son principe qui est dans ce tronc. Ainsi s'observe en moi la loi du talion. » Au cours de cette émission, vous avez pu entendre un extrait de ce qu'a composé Franz Liszt après une lecture de Dante, interprété par Arkady Volodos. Il y a eu malencontreusement quelques applaudissements au début, mais ça n'est pas grave. Et puis ensuite, vous avez pu entendre un extrait d'une sonate intitulée « Le 1er octobre 1905 », une sonate de Leoš Janáček, 1er octobre 1905, parce que c'était la date à laquelle est mort un ouvrier, je crois, au cours d'une manifestation. Et justement, vous entendiez le second morceau, le second extrait de cette sonate qui s'intitule précisément « La mort ». C'était interprété par la pianiste Sarah Lavaux. Je n'ai pas donné le même extrait joué par un autre pianiste pour des raisons techniques. Vous pouvez donc écouter cette étonnante sonate par un autre pianiste assez talentueux à mes yeux qui se nomme Seong Ji-yu Cho. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.